VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 10h à Conakry, 11h à Yaoundé. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Au Nigeria, Muhammadu Buhari vient d'être investi à la présidence à Abuja en présence de dizaines de chefs d'État et de gouvernement et autres dignitaires étrangers. Le président Buhari a repris les rênes d'un pays ébranlé par la crise économique, la corruption et les attaques du groupe islamiste Boko Haram. Claire Morin-Gibourg.
Le secrétaire américain John Kerry mène la délégation américaine avec notamment une figure symbolique, le Nigérian Hakeem Olajuwon, star de la NBA. Le parti de Muhammadu Buhari, l'APC, dit qu'il hérite d'un pays sinistré, doté d'une économie pratiquement à terre à cause de la chute des cours du pétrole. En plus de la corruption qui gangrène le pays, M. Buhari va devoir résoudre les problèmes d'énergie chez le plus gros producteur de pétrole du continent, mais qui est privé d'électricité parfois des semaines d'affilée. La question sécuritaire sera un des dossiers brûlants qui attendent le nouveau président, avec l'insurrection du groupe Boko Haram qui a fait plus de 15 000 morts depuis 2009.
Au Mali, le chef des casques bleus de l'ONU, sain et sauf, après l'attaque contre son convoi hier. Des précisions avec Morgane Guiriec.
L'explosion d'une mine au passage d'un convoi de la MINUSMA sur l'axe Taherje-Tombouctou illustre l'insécurité persistante dans le nord malien. Le général danois Michael Lollesgrad, commandant de la force militaire, et le chef djiboutien de la police, Awale Abdou Nassir, ont tous les deux échappé à la mort. Trois casques bleus burkinabés ont par ailleurs été blessés. Lundi soir, un casque bleu bangladais a été tué et un autre grièvement blessé près de l'aéroport de Bamako. Les causes de ce décès n'ont pas été élucidées. Depuis le déploiement de la MINUSMA en juillet 2013, 35 casques bleus ont été tués. Pourtant, le général Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre française, a assuré hier que Al-Qaïda au Maghreb islamique était durablement affaibli et avait perdu sa liberté de circulation.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, le président Joseph Kabila commence aujourd'hui des consultations politiques tous azimuts pour un dialogue aux contours encore flous. Une partie de l'opposition refuse d'y participer en qualifiant l'initiative de manœuvre du chef de l'État à qui la Constitution interdit de se représenter pour retarder l'échéance de la présidentielle de novembre 2016. Anne Albertson.
Monsieur Kabila doit recevoir d'abord les chefs des confessions religieuses, puis les chefs coutumiers, avant de discuter avec ceux des partis politiques de l'opposition, puis de la majorité, des groupes parlementaires et regroupements politiques, pour finir avec les diplomates accrédités en RDC et le chef de la mission de l'ONU au Congo, a-t-on précisé de même source. La Commission électorale nationale indépendante a publié en février un calendrier électoral global prévoyant une série d'élections locales, provinciales, sénatoriales, devant commencer en octobre et mener jusqu'à la présidentielle et aux législatives programmées pour novembre 2016. Les trois grands partis de l'opposition estiment en substance que ce calendrier fait peser une grande incertitude sur la tenue de la prochaine présidentielle dans les délais prévus par la Constitution. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001.
Le 65e congrès annuel de la FIFA est en cours à Zurich, en Suisse. Le président de l'organisation, Sepp Blatter, maintient sa candidature à un cinquième mandat, malgré l'affaire des pots de vin révélée par la justice américaine. Mais l'ONU, pour sa part, revoit ses partenariats avec l'instance suprême du football dans le monde en raison du scandale, Eddie Sango.
Pour Stéphane Dujarric, porte-parole à New York, l'ONU a décidé de regarder de plus près ses partenariats avec la FIFA. La décision intervient après l'arrestation à Zurich des 7 responsables du football mondial dans des affaires de pots de vin. M. Dujarric a cependant affirmé qu'aucune décision n'a été prise quant à un éventuel arrêt de ses partenariats. Les Nations Unies, selon le porte-parole, sont très engagées dans l'utilisation du sport pour diffuser un message de développement et de tolérance lors des grands événements sportifs. Pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, les fonds des Nations Unies pour l'enfance avaient organisé des espaces pour les enfants dans 3 villes sud-africaines qui accueillaient des matchs de football.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et aussi notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.